Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1936, L'Enfant est un ouvrage majeur de Maria Montessori, médecin italienne et fondatrice de la pédagogie qui porte son nom. Ce livre de réflexion pédagogique ne propose pas un manuel de gestes éducatifs prêt à appliquer. Il examine plutôt la condition de l'enfance, les besoins du développement et les responsabilités des adultes qui organisent la vie familiale et scolaire. Montessori y défend une idée exigeante enfant possède une activité intérieure propre, que éducation doit observer et soutenir au lieu de contraindre selon les seules habitudes des grandes personnes. Son analyse repose sur les observations menées auprès des enfants, notamment dans la première maison des enfants ouverte à Rome en 1907. La présente édition intégrale rend accessible des chapitres longtemps absents des versions françaises, dont plusieurs portent sur les rapports entre générations et les droits des enfants. L'ouvrage constitue donc à la fois une introduction au fondement de la méthode Montessori et une critique de certaines conceptions ordinaires de autorité, de école et du progrès humain. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, respecter la personnalité d'enfant sans renoncer au cadre éducatif, le principe directeur de l'enfant et le respect de la personnalité d'enfant. Chez Montessori, ce respect ne signifie ni laisser-faire permanent ni retrait de l'adulte. Il impose de reconnaître que l'enfant ne constitue pas un adulte incomplet, mais un être engagé dans un processus de construction physique, intellectuelle et sociale. Les exigences éducatives doivent donc partir de ses possibilités réelles, de son besoin de mouvement et de son rythme de maturation, plutôt que de la commodité collective ou de attentes abstraites. Montessori critique les interventions qui humilient, interrompent inutilement ou substituent la volonté adulte à efforts propres de l'enfant. Une telle attitude peut installer dépendance et passivité au lieu de fortifier autonomie. Le rôle éducatif demeure toutefois essentiel adulte, prépare des conditions favorables, pose des limites cohérentes et observe avec rigueur les effets de son action. Le respect devient ainsi une discipline de l'attention. Il demande de distinguer ce qui relève de la protection nécessaire de ce qui relève du contrôle excessif. Cette perspective déplace la question éducative, il ne suffit pas de demander comment faire obéir enfant. Il faut examiner quelles conditions lui permettent de participer activement à sa propre formation et de trouver une place responsable parmi les autres. Deuxièmement, préparer un environnement qui rende autonomie concrètement possible, Montessori accorde une place centrale au milieu de vie. Car les bonnes intentions des adultes ne suffisent pas lorsque les espaces et les objets rendent toute initiative difficile. Un environnement préparé est organisé à la mesure de l'enfant, il est accessible, ordonné, lisible et adapté aux activités qu'il peut entreprendre. Cette adaptation permet une autonomie concrète, par exemple choisir, transporter, utiliser, puis remettre en place un objet sans dépendre continuellement de l'adulte. L'ordre matériel ne représente pas ici une simple préférence esthétique. Il fournit des repères stables qui aident l'enfant à orienter son action, à anticiper les conséquences de ses gestes et à prendre soin du bien commun. Montessori relie donc liberté et structure, le libre choix devient formateur seulement dans un cadre où les possibilités sont compréhensibles et où chaque activité comporte une fin. Identifiable. Le milieu protège aussi la concentration contre les sollicitations inutiles. Cette conception a une portée plus large que la salle Montessori, elle invite parents et éducateurs à analyser les obstacles matériels qu'ils créent parfois sans le vouloir. Un mobilier inaccessible, des consignes instables ou une abondance désordonnée de stimulation peuvent produire la dépendance ensuite attribuée à l'enfant. Préparer le milieu revient alors à transformer une autorité fondée sur intervention constante en une aide indirecte, durable et vérifiable. Troisièmement, faire de l'attention concentrée le moteur du développement, dans l'enfant, Montessori traite attention non comme une qualité que l'adulte obtient par injonction, mais comme un phénomène qui apparaît lorsque l'enfant rencontre une activité ajustée à ses besoins. La concentration se construit dans actions manipulées, répétées, comparées et corrigées, mobilise les facultés de l'enfant de manière plus profonde qu'une écoute imposée. Cette observation explique la valeur attribuée au choix de l'activité et au temps suffisamment long pour aller au bout d'un effort. Interrompre un enfant absorbé, même pour une raison jugée secondaire, risque de rompre le processus par lequel il organise son geste et sa pensée. Montessori ne fait pourtant pas de toute occupation individuelle une expérience éducative. L'activité doit présenter une difficulté proportionnée, un but clair et une possibilité de contrôle. Lorsque ces éléments manquent, agitation ou désintérêt peuvent remplacer attention. La répétition, souvent mal comprise comme une routine, devient alors un moyen de perfectionner une coordination et de stabiliser la confiance dans sa capacité à agir. Cette analyse conduit à reconsidérer le comportement. Une enfant calme et engagée ne résulte pas seulement de discipline extérieure, mais peut manifester une énergie intérieure canalisée par un travail choisi. Pour éducateur, observer les conditions de cette attention est plus instructif que multiplier les récompenses ou les rappels à ordre. Quatrièmement, le matériel autocorrectif comme apprentissage de erreur sans humiliation. Le matériel pédagogique élaboré ou repris par Montessori occupe une fonction précise, rendre certaines erreurs perceptibles par enfant lui-même. Le contrôle de erreur intégré dans objet évite que adulte soit constamment placé en juge qui valide ou invalide chaque geste. En confrontant son action à un résultat concret, enfant peut recommencer, modifier sa stratégie et mesurer ses progrès. Cette démarche soutient indépendance intellectuelle autant que habileté pratique. Elle réduit également le risque que l'apprentissage soit orienté uniquement vers approbation adulte. Montessori relie cette autonomie au développement de la volonté persévérée ne consiste pas à subir une correction, mais à ajuster volontairement son activité en vue d'un résultat compris. Le matériel ne doit donc pas être réduit à une collection de supports spécialisés ou à un signe extérieur d'une pédagogie. Sa valeur dépend de sa simplicité, de son isolement de difficultés et de la possibilité donnée à enfant de le manipuler avec précision. Le principe reste transférable au-delà des objets Montessori, une activité éducative gagne en qualité lorsque ses critères de réussite sont accessibles et quand erreur devient une information plutôt qu'une faute morale. Cette vision exige d'adultes retenus et observation, car aider trop tôt peut priver enfants de expériences décisives de la recherche, de la correction et de la maîtrise progressive. En dernier lieu, réformer le rapport entre générations pour reconnaître les droits d'enfant. L'enfant dépasse le cadre de la classe en présentant enfance comme une question sociale et morale. Montessori estime que les conflits entre générations naissent souvent de l'incapacité des adultes à percevoir la réalité du développement enfantin. Les grandes personnes disposent du pouvoir, organisent les institutions et interprètent les conduites. Elles peuvent donc confondre facilement leurs impératifs avec les besoins de l'enfant. Le livre appelle à une transformation du regard, dans laquelle l'enfant est reconnu comme une personne dotée de dignité et de droits, sans être chargé de responsabilités qui ne correspondent pas à son âge. Cette reconnaissance engage école, famille et société. Elle concerne les conditions de vie, la possibilité de agir, la protection contre la violence ou humiliation, ainsi que la place accordée au développement de l'autonomie. Montessori associe ce respect à une perspective de paix. Apprendre à vivre avec autrui commence par une expérience précoce de considération et de participation, non par la seule soumission. Son argument ne repose pas sur idéalisation de l'enfance. Il souligne au contraire sa vulnérabilité particulière et les effets durables des entraves imposées à son activité constructive. Cette dimension donne au texte une portée politique inhabituelle pour un livre de pédagogie. Il invite les lecteurs à évaluer les institutions selon une question concrète : favorise-t-elle le développement de personnes capables d'initiative, de coopération et de responsabilité, ou entretient-elle dépendance et conformisme ? En conclusion, l'enfant convient aux parents, aux enseignants, aux éducateurs de jeunes enfants et aux étudiants en sciences de l'éducation qui souhaitent revenir au fondement de la pensée montessorienne. Il peut aussi intéresser toute personne qui cherche une analyse historique de la place accordée à l'enfance dans les institutions modernes. Le lecteur ne doit pas attendre un programme immédiat pour aménager une chambre ou choisir des exercices, le livre demande attention. Car Montessori y développe une vision générale du développement, de l'autorité et de la responsabilité sociale. Son bénéfice pratique réside dans les questions qu'il permet de poser avant toute technique enfant. Peut-il agir par lui-même ? Le milieu soutient-il son effort ? Adulte, intervient-il au bon moment ? Et erreur peut-elle devenir un outil de progrès ? Son intérêt intellectuel tient à articulation entre observation concrète et ambition éthique. Par rapport aux nombreux ouvrages contemporains qui simplifient Montessori en liste de matériel ou en conseils parentaux, l'enfant expose la cohérence de la démarche liberté. Ordre, activité, concentration et dignité forment un ensemble. La version intégrale renforce cette portée en restituant des développements sur les relations entre générations et les droits des enfants. Malgré un vocabulaire parfois daté et une argumentation qui peut sembler dense, le texte se distingue comme une source primaire. Il permet de comprendre la pédagogie Montessori depuis ses principes, plutôt que depuis ses usages souvent fragmentaires. Si vous souhaitez soutenir Maria Montessori, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.